Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la publication d'un inédit de Louis-Ferdinand Céline. À l'ordre du jour ce soir, inédit de Céline, qu'est-ce qu'un événement littéraire ? Depuis un an, et le surgissement au grand jour de plus de 6000 feuillets de Céline par l'entremise de Jean-Pierre Thibaudat, le milieu littéraire se passionne pour le contenu de ses œuvres dont la première, publiée, le sera demain chez Gallimard sous le titre de « Guerre ». Céline y romance la façon dont il est tombé au combat en 1914, mais aussi sa convalescence et son départ de l'arrière pour l'Angleterre. Avant même sa parution, ce roman, qui sera suivi de Londres à l'automne, est apparu comme un phénomène aux yeux des Céliniennes et des Céliniens. Que peuvent signifier pour nous, lecteurs, ces capsules temporelles qui nous restituent une époque et nous donnent à lire, comme dans une coupe stratigraphique, le style d'un écrivain alors qu'il ne s'était pas encore révélé comme, on était en 1934, comme l'antisémite de Bagatelle pour un massacre ou le collaborateur des nazis, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Nous en discutons avec nos trois invités. Pascal Fouché, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'édition et de la littérature au XXe siècle, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes éditeur de Guerre, justement, ce livre de Céline qui paraît demain chez Gallimard. Avec nous également David Alliot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur et écrivain spécialiste de Louis-Ferdinand Céline. Votre dernier ouvrage paru, c'est une réédition chez Talendier dans la collection Texto. C'est Madame Céline. Avec nous également Philippe Roussin, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Land.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur de littérature à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez publié en 2005 chez Gallimard « Misère de la littérature, terreur de l'histoire, Céline et la littérature contemporaine ».
Ce contenu, c'est plusieurs milliers de feuillets. Combien exactement on est
6 000, quelque chose comme ça.
Voilà, plus de 5 000 feuillets, 5 000, 6 000 feuillets environ. Moi, ça représentait dans mon bureau quand Jean-Pierre Thibaudat me les apporte, me contacte et prend contact avec moi, où il me dit « j'ai des manuscrits à vous remettre ou à vous montrer, etc. » Ça représente deux énormes valises, 1 mètre cube à l'origine de papier entassé en désordre dans une cave pendant de nombreuses années. Et tout cela contient un grand manuscrit inédit que l'on appellera Londres, puisque c'est le titre que Céline lui donne. Il y a un deuxième manuscrit totalement inédit, qu'on appelle La Guerre parce qu'il n'y a pas de titre. Nous avons 600 pages de casse-pipe inédites.
Eh bien, je suis dans un état de sidération, il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est une découverte absolument extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'équivalent. J'ai cherché un petit peu, il n'y a pas d'équivalent, sauf peut-être quelques Jean Santeuil de Proust. Mais Jean Santeuil de Proust, c'est une œuvre tout à fait mineure. Là, on est dans des livres qui sont vraiment, qui appartiennent véritablement au corpus de l'œuvre de Céline. Et donc, c'est une découverte tout à fait extraordinaire. Et moi, en tant que grand amateur de Céline, évidemment, j'ai été subjugué par ce que j'ai pu voir.
Vous venez d'entendre d'abord Emmanuel Pirat, l'avocat spécialiste des droits littéraires, à qui ont été remis justement ces fameux feuillets auparavant. Et donc, ensuite, il dialoguait avec Émile Bramy. C'était sur France Inter en août 2021. Émile Bramy, écrivain et célinien. Alors, visiblement, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend. C'est un événement littéraire. C'est donc un moment un peu important, Pascal Fouché, parce que simplement, voilà des manuscrits qui ressortent 80 ans après leur écriture.
Oui, c'est un événement parce que forcément, c'était très inattendu.
Manuscrits étaient connus.
On savait que un certain nombre de manuscrits avaient disparu de chez Céline quand il est parti pour l'Allemagne en 1944. Il a dit souvent qu'on lui avait volé, qu'on lui avait pillé, qu'éventuellement ils avaient été brûlés ou dispersés. Il pensait qu'ils étaient perdus. Il y a eu un certain nombre de chercheurs qui ont essayé de pister ces manuscrits sans résultat. Donc, au bout de tellement de temps, il faut dire, on avait quand même un peu perdu l'espoir.
Et comme il n'y a pas de bonne histoire de l'édition, vous en êtes un spécialiste, absolument. Pascal Fouché, sans des petites histoires de cette édition entre les éditeurs, les écrivains, ceux qui découvrent les textes, on peut dire de ce côté-là, Philippe Roussin, qu'il y a celui qui donc avait les textes. Il s'appelait Jean-Pierre Thibaudat. On l'a très bien connu à France Culture et dans les années 80, 90 et 2000 pour ses grandes critiques de théâtre en particulier, et il avait, on lui avait remis ses documents, il les a conservés et ils sont réapparus. Donc une fois la veuve de Céline, donc Lucette, décédée.
Ben oui, on est toujours surpris avec Céline, mais là, bon, je crois que c'est Brami disait, on est sidéré. C'est un peu la multiplication des pains, c'est-à-dire qu'effectivement tous les lecteurs, tous les éditeurs et tous les ayants droit ont envie que les écrivains continuent à écrire après leur mort. Et là, au fond, grâce à Thibaudat et aux descendants des résistants qui ont restitué les manuscrits intacts, on est servi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux Céline. Donc voilà, ça c'est une grande chose.
Oui, David Alliot, on a des nouveaux Céline. Vous avez jeté un œil avant tout le monde, pourrait-on dire, quand ces manuscrits sont arrivés pour publication chez Gallimard. Quel effet cela fait quand on revoit cette écriture, qui d'ailleurs est exposée dans une exposition donc à la galerie Gallimard, au 30 rue de l'Université à Paris, sous le titre de Céline, les manuscrits retrouvés à partir de demain justement.
Bah c'est extraordinaire. Hein. Déjà, on reconnaît immédiatement l'écriture de Céline. Bon, je suis pas un grand spécialiste des transcriptions, j'en ai fait quelques-unes, mais des correspondances. Mais dès qu'on voit la feuille, on reconnaît l'écriture de Céline, et effectivement les premiers mots, les thématiques, un peu le style, les ratures, tout de suite il y a aucun doute. Et effectivement, comme l'a dit Émile Marami, c'est une sidération. 6000 pages quand même, c'est 6000 feuillets, c'est énorme. Hein. C'est du jamais vu dans la littérature.
Alors en l'occurrence, Guerre, ça n'est qu'une partie de ces 6000 feuillets, Pascal Fouché, parce qu'il y aura des éditions au fur et à mesure. On va entretenir la flamme des Céliniens, des Céliniennes, des lecteurs pendant un certain temps, j'imagine. Il y a quoi dedans comme autre?
Ce qu'on se demandait quand même, vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans ces 5000 et quelques feuillets. On aurait pu penser que ça pouvait être des brouillons de romans déjà publiés, des fonds de tiroirs que Céline avait laissés de côté, et il s'est avéré qu'en fait, il y avait effectivement plusieurs ensembles inédits, dont Guerre, le premier qui va être publié, un second qui est la suite de Guerre, qui est Londres, qui est beaucoup plus important encore que Guerre, en taille, c'est plus de 1100 feuillets, donc ouais, il fera 3 ou 4 fois le volume de Guerre. Et puis il y a aussi la légende dont Céline avait parlé.
Un roman fantastico-médiéval.
Voilà, une sorte d'épopée médiévale qu'il a écrite juste après Voyage au bout de la nuit, que de Noël n'a pas voulu publier, et qu'il a utilisé en partie dans Mort à crédit, et qu'il réutilise aussi en partie dans Guerre.
Des feuilles inédites de Casse-Pipe.
Et puis des passages inédits de Casse-Pipe, malheureusement pas tout Casse-Pipe apparemment, mais des séquences qui vont compléter ce qui existe déjà.
Ainsi qu'une correspondance, en particulier des correspondances aussi, j'imagine.
Il y a quelques correspondances aussi, mais plutôt, enfin, c'est pas l'essentiel de ce qui a été retrouvé.
Philippe Roussin, justement, donc c'est une exhumation, pourrait-on dire, comme quand on fait de l'archéologie, on trouve un trésor, on le porte à la connaissance du public. Mais est-ce que cela fait un événement littéraire?
Ben, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, avec cette histoire découverte des manuscrits, bon, d'avoir un vrai événement littéraire, c'est toujours, ça dépasse la littérature. C'est toujours, effectivement, un fait social. Bon, là, on est vraiment devant quelque chose comme ça. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, avec la découverte des manuscrits, en fait, on voit dans le rétroviseur l'histoire de l'été 44. C'est-à-dire entre le débarquement le 6 juin et la libération de Paris le 25 août avec l'insurrection parisienne. Bon, entre-temps, Céline part, donc on est vraiment directement confronté à ça. L'autre chose qui me frappe beaucoup aussi, c'est que, bon, je disais multiplication des pains, donc je vais en rajouter, je vais dire transsubstantation, parce que ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 4 ans, bon, Gallimard... Enfin, il était question que Gallimard publie les pamphlets antisémites. À mon avis, à grand tort, parce qu'il entachait un peu sa
réputation. Il y a eu un énorme débat, effectivement, voilà. C'était en 2018.
Voilà, en 2018. Donc, il entachait sa réputation de grand éditeur littéraire, et puis ça ne servait pas à Céline. Et là, tout d'un coup, parce que ces choses réapparaissent, Céline redevient absolument... Donc, il se rétablit. Il devient à nouveau le grand écrivain des années 32-36. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons, il faut se réjouir de ce qu'on a. Mais ça, c'est la volte-face, c'est assez étonnant. Voilà.
Oui, ça c'est vrai qu'il y a 4 ans, on ne discutait pas de ça à propos de Gallimard et à propos, en l'occurrence, de la figure de Céline. On discutait de cette possible republication des pamphlets antisémites. Et là, on redécouvre des romans qui datent d'avant justement ces publications antisémites de la fin des années 30 et des années de collaboration. Et c'est très étonnant, effectivement.
On a la chance Pascal de pouvoir Fouchet. Reparler de littérature, effectivement, et de pouvoir penser que avec ces publications, de nouveaux lecteurs éventuellement vont être gagnés à Céline, vont découvrir Céline par ce roman et redécouvriront éventuellement les grandes œuvres de Céline que sont Voyage, Mort à crédit, etc.
Alors David Alliot, parmi effectivement les Céliniens dont vous faites partie, il y a toujours cette idée que est-ce que Céline est le plus grand écrivain français du XXe siècle ? Bon, pour vous ça semble évident, mais il y a toujours ce combat avec les Proust qui disent évidemment le plus grand écrivain français du XXe siècle, c'est Proust. On publie ces temps-ci un inédit de Georges Perec, Lieu, qui est une œuvre absolument gigantesque que Perec n'a pas eu le temps de terminer. Il y a ce combat qui est un combat qui ressemble peut-être pas justement à quelque chose de véritablement littéraire, mais plutôt de hisser sur des podiums des grands écrivains. Qu'est-ce que vous pensez justement de cela et donc comment ça rentre dans cette vision que de parler de ces inédits de Céline ?
Ben, en fait, la réponse est quasiment dans votre question. Le fait qu'on soit là, ici, autour de cette table, à parler avec vous de Céline, 60 ans après sa mort et 90 ans après l'écriture de ses textes, prouve que c'est un grand écrivain. Il y a le juge le plus terrible pour un écrivain, c'est le temps. Beaucoup de gens écrivent, et une fois qu'ils ne sont plus là, ça disparaît dans les limbes et on n'en entend plus parler. Céline n'a jamais connu ça, même s'il y a eu des périodes plus compliquées, mais Céline a toujours été lu. Voyage au bout de la nuit, Mort et crédit ont toujours été lus, d'autres livres pour d'autres raisons, pas toujours heureuses, mais effectivement, Céline a toujours été lu, il y a toujours une communauté de Céliniens qui en sont persuadés qu'effectivement c'est le plus grand écrivain du XXe siècle, avec Proust certainement, oui.
Oui, Philippe Roussin.
Oui, moi je suis d'accord avec David Alliot. Alors je sais pas si David sera d'accord avec ce que je vais dire ou s'il approuvera. Une autre phase de l'événement littéraire, là, c'est que ça peut devenir un événement historique. C'est-à-dire que la manière dont, au fond, ces textes n'ont pas été brûlés, ils n'ont pas été vendus. Et donc il n'y a pas d'auto-da-fé de ce côté-là. Et donc,
c'était une accusation que faisait Céline en particulier, oui. Sans savoir véritablement ce qu'il
était venu de ses textes. Non mais ça fait partie de sa défense, parce
avec
qu'il
sa dit défense...
épuré, c'est être volé, donc ouais. Ça c'est normal. Mais ce que je veux dire, étant donné là, on a une redécouverte des manuscrits, des éditions chez Gallimard, etc., moi il me semble que ce serait le moment idéal pour refermer les vieux démons, c'est-à-dire au fond que Céline rentre vraiment dans les fonds patrimoniaux nationaux de l'État à la Bibliothèque nationale, comme il y a des autres fonds patrimoniaux, c'est-à-dire qu'il y a un don des manuscrits, ça permettrait de solder, si vous voulez, le contentieux entre l'écrivain et la République, et de passer à autre chose.
Ouais, Pascal Fouché, qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste de l'édition sous la Seconde Guerre mondiale et éditeur de ce guerre de Louis-Ferdinand Céline, qu'est-ce que vous pensez d'une proposition comme celle-ci, qui n'est peut-être pas de l'avis des ayants droit en particulier ?
Il y a déjà Voyage au bout de la nuit est à la Bibliothèque nationale de France.
A été acheté très cher.
Ça a coûté
très
cher.
Hein, 11 millions d'euros, je crois.
Oui, mais
c'est pas vraiment un don.
Parce qu'il appartenait à un collectionneur privé, ouais. Un libraire en l'occurrence. Donc, il est question qu'un des manuscrits retrouvés, celui de Mort à crédit, aille lui aussi à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est forcément un enrichissement du patrimoine national et on peut s'en réjouir, effectivement.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin, justement, comme le suggère ça dépendra des ayants droit.
Mais Pascal Fouché n'est pas héritier. Donc.
Voilà.
Non, mais moi, je pense que ça serait très bien, parce qu'effectivement, ça solderait le passé. Bon, voilà, 80 ans après, comme le disait David Alliot, on passerait à autre chose. Quoi.
Alors, ce qui est étonnant dans ce guerre, hormis effectivement son ton, son écriture, évidemment, ce style si particulier, et puis ce mélange qui est peut-être plus inédit que dans d'autres ouvrages de Céline de ces années-là, entre sexe et mort, qui sont toujours présents tout au long de l'ouvrage, c'est une réflexion, moi, qui m'a surpris, c'est une réflexion sur la mémoire. J'étais très étonné de, je crois que c'est ce chapitre 5, qui commence à tant d'années passées, le souvenir des choses, bien précisément, c'est un effort. Ce que les gens ont dit, c'est presque tourner des mensonges, faut se méfier. C'est putain, le passé, ça fond dans la rêvasserie. Il prend des petites mélodies en route qu'on lui demandait pas. Il vous revient tout maquillé de pleurs et de repentir en vadrouillant. C'est pas sérieux. Il y a toute une page consacrée à la question de la mémoire. On est en 1934, 20 ans après l'aventure donc de Louis-Ferdinand Destouches sur le champ de bataille, sa blessure, ce qu'il raconte dans ce livre. Et on est aussi à la publication de tous ces livres sur la Première Guerre mondiale qui donc ont permis à Norton Crewe et à d'autres de mettre en doute justement les paroles de témoins dans Témoins et de donc de mettre en doute la mémoire de ces combattants de 14. On se demande même d'ailleurs si, puisque je crois que Témoins est paru 2 ans plus tôt, s'il n'a pas lu Témoins de Norton Crewe et se demandant si ce qu'il raconte c'est une fantasmagorie ou si la réalité rêvée par Céline Pascal Fouché.
Mais on s'aperçoit quand même que la guerre était tellement présente, elle a tellement marqué que même 20 ans après, il en est totalement imprégné. Alors c'est vrai qu'il y a eu ces blessures, qu'on sait que il a été marqué dans sa chair par cette guerre.
Mais là aussi, il l'a rêvé, il l'a fantasmé.
Alors, comme d'habitude avec Céline, dans ses romans, il part de la réalité et puis il enjolive, il imagine, c'est son rôle d'écrivain. Et son métier d'écrivain, donc il transforme la réalité, il la rend encore plus encore plus féroce quelque part, mais quand même on ressent vraiment cette guerre tout au long du volume. On a l'impression d'y être quelque part, hein. On entend les
bombardements sourds des canons
qui sont au loin parce qu'ils sont pas loin du front. On finit par entendre les bourdonnements que lui-même décrit dans sa tête. C'est quand même très très frappant.
Philippe Roussin et David Alliot.
Pascal Fouché écrit que c'est dans la présentation à l'appendice que c'est un premier jet. Bon, et donc je pense les premières pages sont hallucinantes, hein. C'est-à-dire que on commence avec quelqu'un qui parle. On ne sait pas qui c'est, puisque Ferdinand est nommé beaucoup plus tard.
Et peut-être aussi parce qu'on a perdu les premiers feuillets, visiblement.
C'est très possible.
Bon, voilà. Alors, et en même temps, quand vous dites c'est 20 ans après, et il y a cette interrogation sur la mémoire que vous venez de citer. Mais ce qui est quand même extraordinairement frappant, c'est qu'il se souvient de tout. C'est-à-dire que c'est hypermnésique. Et moi, on a l'impression, quand on lit, c'est même pas du monologue intérieur, on est dans le crâne ouvert du gars, quoi.
On est d'autant plus dans le crâne effectivement qu'il souffre justement de ce crâne et des bourdonnements dont parlait à l'instant Pascal Fouché. Mais on peut se demander d'ailleurs si ce livre aurait pu être publié sous cette forme, avec ce mélange de sexe et de mort dont je parlais tout à l'heure, David Alliot, puisque c'est un premier jet. Et on ne sait pas si un éditeur comme De Noël aurait accepté de publier cela tel que en 1934 ou 35.
Non, tel que, enfin, l'histoire de la vie de Céline nous a enseigné qu'effectivement que lorsque Céline a présenté le manuscrit de Mort à crédit, De Noël avait été horrifié par certains passages un peu salaces. Donc effectivement,
là, il y en a beaucoup parce que c'est tout au long. C'est tout au long. On peut dire que c'est tout au long du roman, puisque effectivement, la mort côtoie le sexe en permanence avec cette infirmière qui est toujours là pour être auprès de lui le soir et donc pour avoir des scènes de sexe avec lui.
Oui, puis elle a des goûts nécrophiles quand même.
Ceux de Mort à crédit sont moins salaces.
Ah, moins salaces encore. En comparaison, Mort à crédit, c'est gentillet, hein. Là, il y a des passages quand même effectivement de baise, hein, pour parler crûment, qui sont bien décrits en long, en large et en travers, qui méritent effectivement quelques places dans les anthologies du genre, hein. Mais effectivement, je pense que De Noël n'aurait pas publié les passages de sexe. Et je voulais revenir sur ce que disait Philippe Roussin et Pascal Fouché, qui était tout à fait juste. C'est lorsque le guerre s'ouvre sur la guerre de 14, sur sa blessure dans les Flandres, c'est écrit 20 ans après, mais on a vraiment l'impression que c'est ce qui m'avait marqué lorsque je l'ai lu, c'est que ça avait été écrit le soir même de sa blessure. Et il dit que la mémoire s'en va. Mais moi, je trouve que pour quelqu'un qui raconte 20 ans après sa blessure, il y a vraiment la première partie, c'est vraiment pris sur le vif et c'est assez extraordinaire pour ça.
Philippe Roussin.
Moi, quand je lisais ces premières pages, je pensais au très beau poème de Drieu-La Rochelle, 1917, poème de guerre. Et je pensais à Aragon dans le roman Inachevé, quand il raconte comment, alors beaucoup plus tard, hein, quand il raconte comment il a été médecin auxiliaire, il est enseveli 3 fois, c'est tout à fait ça, il repasse un mois après. et il découvre, sur les mêmes lieux, il découvre une tombe avec une croix à son nom. Et donc, c'est comment ces gens, enfin, particulièrement Céline, ne sont jamais sortis de la guerre.
C'est la fameuse génération perdue qui a traumatisé Breton, Artaud et autres. Et là, on a vraiment un récit très cru et très assez extraordinaire sur sa blessure et la guerre. Effectivement, on entend les canons, on entend le sang qui coule, c'est vraiment abominable.
Oui, en particulier le gargouillis de celui qui va mourir auprès de lui. Absolument. Vous écoutez le temps du débat sur France Culture, 18h40. Inédit de Céline, qu'est-ce qu'un événement littéraire, en compagnie de Pascal Fouché, historien spécialiste de l'édition et éditeur de Guerre de Louis-Ferdinand Céline, qui sort demain chez Gallimard, de David Alliot, éditeur et écrivain spécialiste de Louis-Ferdinand Céline, et de Philippe Roussin, directeur de recherche au CNRS, professeur de littérature à l'École des hautes études en sciences sociales.
Un homme peut être dégueulasse et dans son écriture arriver à une ampleur poétique. C'est extrêmement troublant.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein la rue, n'est-ce pas? J'en vois partout, des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas? Et mille histoires. J'ai une clinique, je verrai toujours...
Vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas, chez l'écrivain, un tempérament?
C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a un, deux, trois par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent « je vois que », etc. C'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. N'est-ce pas? Si vous mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous avez d'abord reconnu la voix de l'acteur Fabrice Luchini. C'était dans la grande traversée consacrée il y a 2 ans ou 3 ans sur France Culture à Céline, signée Christine Lecerf et Franck Lilin, et puis suivie de celle de Louis-Ferdinand Céline lors d'une interview qui date de 1959 pour la télévision française avec Louis Powels. C'est donc dans les collections de l'Institut National de l'Audiovisuel. Il y a quelque chose qui est présent déjà, c'est ce discours de la plainte, Pascal Fouché. Ce discours de la plainte qui ne quittera jamais Céline. La plainte contre la vie, la plainte contre les autres, la plainte contre le sort qu'on lui réserve, etc. Et ça, c'est assez... Enfin, ça peut énerver d'une certaine manière.
Oui, mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques de l'écriture de Céline et une des formes de son génie quelque part. Il se sert de sa propre expérience et il la transforme et il en fait quelque chose contre toujours et qui devient très fort et qui donne cette force justement pour un roman aussi bref, avoir autant d'intensité, c'est extraordinaire.
Parce que Philippe Roussin, il y a tout de même dans ce livre et dans ce discours de la plainte la construction d'une figure, c'est-à-dire que quand il parle de son style, etc., il y a aussi la construction de ce personnage qui s'est construit, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, pour pouvoir s'exonérer de ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela, c'est aussi une figure qui est une figure de la plainte, de la victime, se victimisant soi-même, même quand il dit que ses manuscrits lui ont été volés, alors qu'ils ont été, certes, ils ont disparu, mais ils n'ont pas disparu au point qu'on puisse les éditer encore aujourd'hui.
Non, mais si vous voulez me faire dire que Céline n'est pas Tolstoï, je suis d'accord. Il n'est pas l'auteur de Guerre et Paix. Il est l'auteur de guerre. C'est-à-dire, au fond, chez Céline, la paix manque. Et donc, on voit bien dans ce roman, c'est-à-dire, à un moment, il y a la guerre dans la langue. C'est-à-dire, c'est la guerre contre la langue de l'arrière, la langue de Barrès et des éditoriaux nationalistes qu'il exècre dans « Voyage au bout de la nuit ». C'est la langue soumise et châtiée des parents.
Oui. D'ailleurs, c'est très présent dans ce livre, parce que dès qu'il commence à parler, ses parents, effectivement, ils détestent la façon dont il parle, et il le dit lui-même dans « Guerre ».
Voilà. Et je crois qu'il y a un terme qui définit bien les choses. C'était le terme qu'avait employé Le Clésio dans Le Monde des Livres quand Céline était mort. Il parle de l'imprécation et de l'exécration. C'est-à-dire, au fond, c'est l'imprécation toujours à hauteur de la violence qui a été subie pendant la guerre.
De 14.
De 14.
Et pas celle de seconde.
Non, 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 mais là, on parle de 32-33.
Bien sûr.
Bon, alors après savoir pourquoi cette langue s'oriente vers une logique, une langue antisémite, bon, c'est peut-être une autre émission, je sais pas.
Oui, oui.
Je veux bien en parler. Hein,
mais... David Alliot.
Céline, c'est l'écrivain de la désillusion. Jusqu'en 1914, c'est le parfait petit français, comme des millions d'autres. Hein. Travail, famille, patrie, on va faire la guerre contre les Boches, l'ennemi héréditaire. Et effectivement, il y a la guerre de 14 qui va le marquer durablement, comme beaucoup d'autres. Et il comprend en fait que tout ce qu'on lui a raconté jusqu'à présent, ce n'était que mensonge, genre le nationalisme, le conservatisme, la société, enfin, etc. Et donc, effectivement, dès 1914, après cette blessure où il a failli y passer, il est en révolte contre la société, contre ses parents. Et effectivement, dans Guerre, il le raconte très bien, la visite des parents
à
l'hôpital, c'est extraordinaire, où il est quand même cassé en quatre morceaux et ils viennent lui parler des misères du petit commerce, quoi. Donc, et que la vie est dure à l'arrière. C'est un passage formidable qui aurait mérité d'être dans Mort à Crédit, d'ailleurs, hein, tellement il est assez extraordinaire. Donc c'est ça, Céline, c'est la révolte contre l'ordre établi, parce que cet ordre établi l'a emmène le monde à la boucherie.
Mmh. Philippe Roussin.
Mais oui, c'est-à-dire que comment dire, il est. Quand je disais, c'est pas Tolstoï. Bon, c'est comme Junger, c'est-à-dire que la guerre est matricielle et il pense et il produit à partir de ça. C'est-à-dire, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire, Voyage au bout de la nuit, ça commence sur la guerre. Toute l'œuvre Nord se termine là-dessus. C'est-à-dire qu'il sort du Reich nazi en fuite avec des Mongoliens. Ferry, pour une autre fois, c'est quand même un gars qui vous raconte pendant 250 pages. Un bombardement sur Paris. Et puis, octobre 14, c'est avant les tranchées. Donc c'est le moment, comme les historiens...
C'est la guerre de mouvement. Guerre,
c'est la guerre de mouvement. C'est le moment où, comme les historiens de la guerre l'ont montré, c'est hécatombe.
Oui, Peggy, jusqu'à 22 000 morts un même
voilà,
jour.
C'est Peggy le 5 septembre, Alain Fournier, Céline après Pergaud.
Oui, Pascal Fouché, justement, sur ce que viennent de dire à la fois David Alliot et Philippe Roussin.
La guerre, effectivement, est tellement présente dans son œuvre. Et là, comme on a un roman qui est centré sur cet événement, qui manquait d'ailleurs dans son œuvre, hein, c'est vraiment un passage dont on espérait qu'il l'avait raconté, dont on n'était pas sûr qu'il l'avait raconté, même s'il avait dit qu'effectivement, Mort à Crédit, c'était à la fois l'enfance, la guerre et Londres. Là, on a la preuve qu'il a bien continué son travail après avoir raconté son enfance et qu'il a raconté la guerre. Alors, pas toute la guerre, effectivement. Il nous manque la période où il est au front directement, mais cette guerre qu'il raconte, elle est tellement présente chez lui, elle l'a tellement marqué que même 20 ans après, elle est totalement sublimée.
Philippe Roussin.
Je disais, c'est guerre sans paix. C'est-à-dire qu'au fait, le mot paix n'apparaît pas dans le texte.
Une seule fois ?
Non, il apparaît en creux à la fin. Ouais. C'est-à-dire quand Ferdinand quitte le territoire français, national,
oui, il espère retrouver un,
et il dit, il n'y avait pas la guerre à Londres.
Voilà.
Bon. Et un autre passage, il dit, il faudrait pouvoir passer à l'étranger dans un pays où on ne se tue pas.
Oui.
Et cela, qu'est-ce que vous en tirez justement découverte de ce texte?
C'est-à-dire que il y a une division des usages de la langue chez Céline. C'est-à-dire qu'au fond, on aime dans les romans, toujours en langue étrangère et toujours à l'étranger. Ça se passe en Angleterre, ça se passe aux États-Unis. On n'aime jamais dans la langue française. Donc la langue française est réservée à un autre usage. Par exemple, avec les parents, c'est quand même extrêmement impressionnant.
Donc c'est quoi? C'est une langue qui montre la haine ou la détestation de l'espace dans lequel vit le plus longtemps?
Mais non, ça veut dire pour quelqu'un qui est aujourd'hui un symbole de l'écrivain national, c'est vraiment un rapport très intéressant à la langue maternelle et à la langue française. Ça mériterait d'être interrogé, y compris dans la dimension de l'antisémitisme.
On a tout de même l'impression, quand on vous écoute tous les trois, que c'est comme une sorte de soulagement, je ne dirais pas lâche soulagement, que de voir réapparaître ces livres, parce que ça permet de fermer la parenthèse, qui n'était pas une parenthèse tellement elle était longue, effectivement, du débat sur l'antisémitisme de Céline, sinon de la fermer en tout cas, de faire en sorte qu'on la minimise, parce que là, tous ces livres qui paraîtront, théoriquement, sont des livres datant de ce moment des années 32-36 dont parlait tout à l'heure Philippe Roussin. Qu'est-ce qu'il faut en dire de cela? Est-ce que c'est, d'une certaine manière, vous le disiez tout à l'heure, il est temps de reparler de l'œuvre plutôt que de l'homme. On est dans une période où on ne divise pas l'homme et l'œuvre aussi facilement que vous voulez le faire, Pascal Fouché.
Non, c'est une chance, effectivement, mais malgré tout, les écrits restent, comme on dit, donc on reparlera forcément de ces autres écrits.
Des écrits antisémites. D'autant que j'ai cru comprendre, je vous lançais tout à l'heure, mais que dans ce que disaient à la fois l'avocat Emmanuel Pirat et Jean-Pierre Thibaudat, il y avait une correspondance avec Brasilla, qu'il y avait des correspondances avec De Noël, dont on peut peut-être imaginer qu'ils ne disent pas que des choses extrêmement...
Il y a très peu de choses dans les lettres. Ce sont des lettres de Noël qui concernent essentiellement des histoires d'argent et Brasilla qui a c'est très
donc ça n'est pas une correspondance suivie, vous voulez dire.
Donc il n'y a pas de
il y a un petit dossier antisémite dans l'ensemble des
textes. Oui, mais il y a pas de scoop et c'est pas des écrits de Céline, donc il y a pas d'écrit nouveau à ce point-là, mais il reste quand même que ces textes vont tomber dans le domaine public dans moins de 10 ans. Dont les écrits polémiques. Donc,
dont les écrits antisémites.
On en reparlera forcément.
Oui, David Alliot.
De quoi des aider.
Non, on a sur cette question du soulagement de se dire, tiens, voilà, on voit reparaître, après tous les débats sur les écrits antisémites, on voit reparaître l'écrivain des années 30.
Effectivement, comme disait Pascal Fouché, on va reparler de littérature, de grande littérature, parce qu'effectivement, même pour un premier jet, Guerre est comme un ouvrage assez extraordinaire. Et surtout, ça comble un manque, parce que, effectivement, pendant très longtemps, ces textes ont été considérés comme perdus. Miraculeusement, il réapparaît. 70 ans sans avoir été perdu, il peut s'en passer des choses en 70 ans dans une cave, inondation, où l'appartement prend feu, ils auraient pu être perdus à tout jamais. Et par un miracle, ils arrivent jusqu'à nous, ils vont être publiés. Donc c'est plutôt formidable. On ne peut que se réjouir de ce miracle. Mais effectivement, là, on va parler de littérature. Oui,
c'est... Ouais, Philippe Roussin.
Oui, mais 3 points. Pourquoi je dirais qu'on est content, pas soulagé, en tout cas moi je suis pas soulagé, c'est qu'effectivement, au fond, il n'y avait pas eu de grand texte littéraire de fiction depuis la publication dans la Pléiade en 93 de Féry sous l'autorité d'Henri Godard. Deuxièmement, je dirais que mieux vaut parler de ça que des pamphlets. Et troisièmement, la question que vous posez en fait, c'est qu'est-ce qui se passe en 36-37? C'est-à-dire pourquoi quelqu'un qui a été aussi violent contre l'antisémitisme de son père dans Mort à crédit, un an après, c'est la descente aux enfers antisémites. Bon, il y a toujours un ensemble de raisons, mais il y en a une qui, moi, me paraît intéressante. À la fin de sa vie, dans deux entretiens qu'il accorde, Céline dit « on porte pas beaucoup de livres en soi ». Après « Voyage au bout de la nuit » et avec « Mort à crédit », je n'avais pas grand-chose à dire. Et donc c'est exactement ce que dit Pagès.
Dans l'entretien qu'on entendait tout à l'heure, je me suis transformé ensuite en chroniqueur.
Oui, mais parce que effectivement,
il est un peu démenti parce qu'on a retrouvé.
Voilà. Oui. C'est ce que dit Yves Pagès là dans le journal du dimanche. Il dit il y a une panne de fiction. Alors il aurait pu se taire. Après 36.
Il rédigeait Casse-pipe, et d'après, si on suit la chronologie, il a abandonné Casse-pipe pour écrire Bagatelle pour un massacre. Mmh. C'est pour ça peut-être que Casse-pipe reste encore en partie inédit ou inachevé. C'est qu'effectivement, il avait peut-être prévu son troisième grand roman devait être Casse-pipe, mais à un moment donné, il arrête pour faire Bagatelle pour un massacre, qui était peut-être plus lucratif, peut-être plus facile pour lui à faire. Oui,
oui, c'est-à-dire quand vous dites le troisième grand roman, maintenant il faudra dire c'est peut-être le cinquième grand roman, parce que normalement, il y a donc maintenant maintenant, on intercale entre Mort à crédit, le voyage et Casse-pipe, on intercale guerre et on intercale Londres désormais.
Oui, ça dépend après dans quel sens on les met, mais effectivement, Céline avait conçu son œuvre première comme une sorte de trilogie avec Mort à crédit pour sa jeunesse, qui se termine d'ailleurs assez abruptement sur son incorporation. Enfin, il se termine la veille de son engagement. Là, avec Casse-pipe, on va avoir le milieu. Et le troisième morceau, c'est effectivement Voyage au bout de la nuit. Bon, après, il y avait les autres passages. Alors après, où se mettent guerre et Londres dans tout ça, ça on va le savoir d'ici peu. Mais la publication de Casse-pipe, dans un an, va rétablir quand même une grosse partie du milieu.
Parce qu'elle touchait.
Il ne faut pas oublier quand même que dès le début de l'occupation, il revient au roman.
Oui, aussi, avec Guignol's Band.
Avec Guignol's Band. Alors la question de savoir justement pourquoi est-ce que, ayant écrit une partie de guerre et Londres, qui est un manuscrit apparemment achevé, même si c'est effectivement une première version. Pourquoi est-ce que il repart de zéro pour écrire Guignol's Band? C'est une bonne question. Mais il fera la même chose après guerre avec Guignol's Band 2, quand il part de Paris pour l'Allemagne et ensuite le Danemark. Il continue à écrire Guignol's Band 2, qu'il abandonne tout d'un coup pour écrire Féerie. Et Guignol's Band 2 ne sera publié que de façon posthume. Donc là, c'est l'écrivain qui, à un moment, décide que il préfère travailler sur tel ou tel sujet.
Philippe Roussin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pascal Fouché. Mais bon, la bascule là, de 37, je pense que c'est aussi...
C'est Bagatelle, ça.
Oui, Bagatelle pour un massacre, pardon. Bon, on revient à notre sujet. C'est aussi, au fond, la panique devant la guerre. Artaud devient fou hein, à ce moment-là, fin 37. Bon, Bernanos part au Brésil. Il dit « je ne peux plus vivre en France, c'est devenu insupportable ». Et puis je crois qu'il y a autre chose, c'est...
Mais Bernanos, c'est celui qui changera pendant la guerre.
Bah, c'est un ancien Maurassien qui dit...
Qui abandonne justement son
Maurassien. Qui dit « je ne supporte plus », c'est son vocabulaire, les tentes de « je suis partout ». Il s'en va, c'est-à-dire il dit c'est irrespirable, il devient gaulliste, etc. Bon, et l'autre question, je pense que c'est un écrivain qui, Céline, c'est un écrivain qui invente, au fond, qui installe frontalement la langue populaire et l'argot dans le roman.
D'ailleurs, il y a un petit lexique à la fin que vous avez rajouté, voilà. Pascal Fouché.
Oui, justement, pour les gens qui ne connaissent pas bien Céline, surtout.
Je pense qu'en 36, 37, au fond, il y a le Front populaire. Et donc il est pris à rebours parce que c'est un peuple politique. C'est pas le peuple du médecin. C'est ce que disait Queneau en 37. Il dit c'est quand même bizarre tous ces gens qui parlent le populaire. C'est tous de fiefs réactionnaires. C'est vraiment intéressant, je trouve.
Oui, et puis Mort à crédit est mal accueilli.
En plus, il y a du ressentiment par rapport à ça.
Voilà, il est très déçu par l'échec de Mort à crédit, qui est un grand roman, mais qui est assez mal compris au départ, au point que son éditeur vient à sa rescousse pour faire l'apologie de Mort à crédit, donc la défense de son auteur. Et donc, effectivement, le fait qu'il bascule vers une autre forme d'écriture s'explique aussi probablement par ça.
Merci à tous les trois. Je rappelle que nous discutions des inédits de Céline. Qu'est-ce qu'un événement littéraire en compagnie de Pascal Fouché qui vient d'éditer. Donc, Guerre de Louis-Ferdinand Céline, ça sort demain chez Gallimard. De David Alliot, dont le dernier ouvrage s'intitule Madame Céline en réédition dans les textos Talendier cette année. Et de Philippe Roussin, directeur de recherche au CNRS, professeur de littérature à l'École des hautes études et qui a publié Misère de la littérature, Terreur de l'histoire, Céline et la littérature contemporaine. C'était en 2005 chez Gallimard. Cette émission a été préparé par Rémi Baye, Chloé Cambrelin, Juliette Mouilic, Mathias Melgi et Bruno Baradin. Replongez-vous dans la grande traversée de France Culture consacrée à Céline, qui est absolument formidable, réalisée par Franck Lilin et donc menée par Christine Le Serre. C'est sur le site franceculture.fr. On peut aussi aller voir l'exposition Céline, des manuscrits retrouvés à la galerie Gallimard. C'est au 30 rue de l'Université à Paris du 6 mai au 16 juillet. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon, à la réalisation Thomas Jost et Daphné Leblanc.